présents nombreux et nombreux. Voilà, donc au nom des professeurs du CELAR qui sont hélas toutes les trois malades ce soir, j'ai le grand plaisir d'introduire Mme Malinowska, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Varsovie, qui a donc soutenu une thèse sur de comparaison entre la situation des femmes en France et en Pologne, puis qui a consacré son HDR au féministe Poulain de la Barre, et qui nous présentera aujourd'hui l'intervention. Donc voici le titre, donc je vous laisse la parole, avec grand plaisir.
Bonjour à tout le monde, merci d'être invité, de pouvoir présenter le sujet qui m'intéresse ce dernier temps. Alors ce qui m'intéresse, c'est voilà, cet opuscule latin de la fin de la Renaissance. Une question, j'ai combien de temps finalement?
Vous avez au moins une heure et quart, hein? Bon,
d'accord. Trois heures comme en Grèce, non? Une heure et demie, c'est à peu près ça.
Oui,
d'accord. Alors, j'ai proposé un autre sujet. En fait, c'est le même sujet, mais le titre était différent parce que c'était deux traductions françaises. Alors, je viens de changer ce titre à dernièrement. J'ai ajouté trois traductions françaises parce qu'il y en a une troisième de la fin du XVIIe siècle. Je vais vous dire un petit mot de ce texte. En tout cas, c'est un manuscrit que je viens de recevoir de la bibliothèque d'Oxford, donc je n'ai pas encore étudié le texte entier, donc j'ai jeté un coup d'œil. Hein. Alors, j'ajoute trois traductions. Bon, donc il faut commencer. Alors, 1595, c'est le moment où est paru Sans nom d'auteur, donc c'est un texte qui est intitulé, comme vous voyez, Disputationum contra mulieres. En tout cas, le titre est plus long. En tout cas, il a immédiatement suscité une tempête de controverse. Le titre de ces textes originaux porte, comme vous voyez, le nom latin de Disputatio. Autrement dit, la disputation, qui, selon le trésor de la langue française, hein, je cite, un débat public sur un sujet de théologie entre deux ou plusieurs adversaires. Fin de la citation. Voilà. Effectivement, au XVIe, XVIIe siècle, la disputation appartient au genre de la controverse religieuse. Hein, ce genre est assez répandu à cette époque. Parfois, on trouve aussi le terme invective religieuse. Alors, il s'agit d'un discours qui est assez violent, où on attaque l'adversaire religieux. Alors, cette littérature en général est de nature théologique, n'est pas du tout sèche ou formaliste. Elle se caractérise par les émotions, on peut trouver les invectives, les exclamations, parfois le dialogue intérieur ou encore des plantes prolongées. Et cette sorte de polémique caractérise surtout l'époque de la Renaissance où prolifèrent les écrits des polémiques religieuses. Il faut aussi souligner que les auteurs de ces textes n'appartenaient pas toujours au groupe de grands théologiens. Ça veut dire que n'importe qui a pu présenter son avis et attaquer soit un individu, soit une secte, ou encore une religion bien enracinée dans la tradition chrétienne. Donc, contrairement à ce que suggère le titre latin, cet opuscule n'est pas un texte misogyne, hein, même si la polémique qu'il a suscité, ainsi que les interprétations souvent hâtives et abusives, l'ont rangé parmi les ouvrages anti-féministes. Donc, bon, il faut bien comprendre le contexte historico-religieux de sa publication pour comprendre de quoi s'agit-il et pourquoi, finalement, au fur et à mesure, hein, pendant des siècles, ce message a été finalement déformé et on n'exploite que le sujet qui concerne l'humanité féminine, ce qui semble être plus intéressant, plus pour les publics, hein, si on parle de ce public du XVIIIe siècle, le public féminin. Et pour nous aujourd'hui, c'est aussi ce qui est plus intéressant, c'est tout ce qui est misogyne, et non pas forcément la controverse religieuse. Donc voilà. Hein, alors de quoi s'agit-il? Le texte vise un courant chrétien du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle, connu sous le nom de socinianisme. Hein, c'est le nom difficile, hein, mais socinianisme. Hein, alors, encore un autre problème, dans le texte latin, le nom socinianisme, socinien, etc., n'apparaît point. En revanche, vous trouverez un autre terme, anabaptisme, anabaptiste. Mais pour résoudre cette question, il faut connaître ce contexte historico-religieux qui nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas de la satire contre le mouvement de l'anabaptisme, mais bel et bien de socinianisme, hein, parce que c'était le seul mouvement qui rejetait le dogme de la divinité de Jésus-Christ ainsi que celle de la Trinité. Et voilà, il faut que je vous montre le début, hein, donc c'est une traduction du XVIIIe siècle, le début, vous voyez, puisqu'en Pologne, où la licence en fait d'opinion n'a point de borne, il est libre de croire et d'enseigner que Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur d'un terre de nos âmes, n'est point Dieu conjointement avec le Saint-Esprit. Je pense qu'il me sera bien permis de croire, etc. etc. Donc voilà, et à la fin, les anabaptistes s'efforcent de prouver que le Christ n'est pas Dieu. Les anabaptistes à l'époque, ils ont adopté la doctrine de la Trinité. Alors, le problème est tel que à cette époque de la Renaissance, il y avait tant de courants que la distinction typologique était parfois difficile. Donc, on avait ce terme de l'anabaptisme qui embrassait d'une certaine manière cette diversité des courants religieux et vous avez une petite citation de l'identité confessionnelle où l'auteur explique, hein, il n'est pas étonnant donc que les réformateurs aient parfois confondu les divers courants et leurs représentants reprochant aux anabaptistes toutes sortes d'erreurs qui en réalité, s'est trouvé disséminé dans d'autres groupes. Et il faut donc comprendre ce terme qui apparaît dans l'opuscule latin anabaptisme comme une épithète injurieuse qui fonctionnait à une époque donnée, donc c'est la fin du XVIe siècle, comme plus tard au XVIIe et au XVIIIe siècle, le même épithète injurieuse, ce sera le terme de socinianisme. Encore au début du XVIIIe siècle, éclatait de temps en temps une querelle dont le fondement était une accusation au socinianisme. Hein, donc si on n'était pas orthodoxe, on était tout de suite accusé d'être un socinien. Alors, j'ai une autre citation d'une spécialiste genevoise de la réforme en général. Donc vous voyez ce qu'elle écrit, cette hydre, elle parle de ce signalisme, à plusieurs têtes, les unes plus effrayantes que les autres, avait pour beaucoup un nom unique, évocateur à lui seul des dimensions du danger encouru par le protestantisme. Il s'agissait bien entendu du socinianisme, cette nébuleuse aux contours indistincts qui renvoyait désormais moins à une réalité historique déterminée qu'à une épithète injurieuse censée recouvrir toute défiance doctrinale et exposer au blâme public celui qui en était le déplorable objet. Alors, d'où vient le terme de socinianisme de Fausto Socini, donc italien, hein, qui est venu à la fin du XVIe siècle en Pologne. Ce terme, socinianisme, a été forgé par les adversaires de la doctrine prônée par les Sociniens. Alors les Sociniens en Pologne, ils se nommaient elles-mêmes frères polonais, ou parfois on les nommait les Ariens en Pologne, anti-trinitaires aussi. Et ce mouvement est né donc en Pologne vers les années 1560, alors avant l'arrivée de Fausto Socini en Pologne, et Disputatio Nova est donc une satire contre Socinien qui, comme le soulignent les traducteurs français du XVIIIe siècle, là j'ai mis la citation de Pierre Bell de son dictionnaire critique, donc on va le citer. L'auteur de la dissertation n'en veut point principalement aux femmes, ce n'est que par accident et fort indirectement qu'il les maltraite. Son principal but est de tourner en ridicule le système de Socinien et leur méthode de jouer des textes les plus formels de la parole des dieux touchant de la divinité de verbe. Alors je cite maintenant le traducteur du XVIIIe siècle, Anne-Gabrielle Meunier de Kerlon, c'est une traduction de 1744. Dans sa préface, il écrit que les Sociniens sont ridiculement attachés à la lettre et que leurs dogmes ne sont appuyés que sur des chicanes des mots et des pointilleries grammaticales. Fin de la citation. Alors cela explique pourquoi l'auteur du texte latin les met en ridicule en parodiant leur méthode d'interprétation biblique pour mieux réfuter leur doctrine. Ce qui caractérise les frères polonais, donc ces Sociniens, c'est la raison. La raison qui est une faculté qui devrait conduire l'homme dans la vie et aussi dans sa connaissance des dieux. La doctrine de la raison a été élaborée par les frères polonais avant l'apparition de l'œuvre de Descartes. Et donc nous pouvons ranger les frères polonais parmi les philosophes, les rationalistes, qui développeront leurs idées à la charnière du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais la grande différence entre les rationalistes et les frères polonais consiste en la compréhension de cette raison. Pour les Sociniens, la raison est une juge absolue et suprême. Et ce qui n'est pas conforme à la raison doit être rejeté, comme dans le cas du dogme de la Trinité. C'est pourquoi les Sociniens niaient la divinité du Christ, sa préexistence, le péché original, la rédemption, la Trinité. Il rejetait aussi l'Eucharistie qui, selon eux, n'avait aucun caractère de rédemption ou le pouvoir de racheter les péchés. Donc vous voyez, hein, les frères polonais rejettent tant de dogmes chers aux catholiques et aux protestants. Donc cela les rangeait à l'époque parmi les déviants doctrinaux. Alors, si les sociniens peuvent nier la divinité de Jésus-Christ en fondant leur thèse sur la Bible, l'auteur du texte latin peut parodier leur méthode pour prouver une autre absurdité et nier l'humanité de la femme. Et comme le souligne le chercheur canadien, cet ouvrage est en réalité une habile supercherie, un pamphlet antisocinien, un traité badin contre ceux des théologiens qui abusent dans leur exégèse de citations bibliques. Alors, l'auteur de cet ouvrage latin dispute plusieurs passages bibliques pour prouver cette absurdité que la femme n'appartient pas à l'espèce humaine. Et parmi les arguments, nous trouvons tout ce qui a été exploité lors de la querelle des femmes. Je vous rappelle, la querelle des femmes, hein, c'est une notion inventée par les médiévistes de la fin du 19e siècle. Donc il s'agit d'un débat autour de la situation de la femme à l'époque de l'Ancien Régime, hein, avant la naissance du féminisme. Alors, ce sont ici, hein, dans ce texte, apparaissent, disons, les arguments qui ont été exploités et qui seront exploités par ceux qui participent dans cette querelle des femmes. Alors, si c'est la Bible, donc évidemment, on va, parmi les arguments qui sont importants, c'est la création, le péché originel, les rôles de la femme dans la génération, encore son exclusion des fonctions publiques, hein, on pouvait trouver d'autres. Alors, comment cet ouvrage est construit, hein, la composition de cet ouvrage latin? On a des thèses, hein, courtes thèses, 51 thèses. L'auteur a choisi la discontinuité, alors un style coupé qui semble mieux répondre à son dessein de controverse religieuse, mais on peut discerner quand même la préface, hein, le sujet central et puis la fin. Donc, six premières thèses, alors c'est cet endroit où l'auteur explique pourquoi il a choisi ce sujet, c'est ce qu'il veut prouver, ainsi que comment il procédera pour présenter son argumentation. Donc on découvre assez vite qu'en Pologne règne une liberté religieuse qui mène au foisonnement de sectes niant le dogme de la Trinité. S'effondrant sur les méthodes, l'auteur prouvera que ces règles sont mauvaises, renversent le message biblique et surtout permettent de prouver n'importe quoi. Ensuite, hein, l'auteur propose d'examiner tous les passages des défenseurs du beau sexe. Donc, nous avons 44 thèses suivantes qui constituent le sujet central de ce discours. Et puis, la dernière thèse qui termine les considérations sur la femme, où l'auteur souligne, encore une fois, hein, donc il parle de ce but, donc il pense atteindre ce but et le vrai message de son ouvrage. Alors, lisant attentivement le texte, On ne peut pas se tromper hein, qu'il s'agit d'une polémique religieuse, hein, d'une forme, sous la forme d'une satire. La langue latine de l'auteur de cette disputation n'est pas très raffinée. Il utilise plutôt des phrases courtes, des citations bibliques sont souvent paraphrasées. Il cite rarement des noms propres. Il préfère se servir du générique hein, qui englobe les doctes, les philosophes, les grammairiens. Il dit par exemple tous les philosophes tombent d'accord. Hein, tous les philosophes, les plus savants théologiens, mais on ne sait pas lesquels, etc. Et dans cet ouvrage, nous trouvons quelques notions qui désigne plusieurs courants religieux. De temps en temps, l'auteur utilise des termes volontairement outrageants comme papiste pour désigner les catholiques ou anabaptiste voilà, pour offenser les frères polonais. Ou encore, il utilise d'autres mots pour qualifier ses adversaires imaginaires, par exemple, ignorants, stupides, déraisonnables, etc. Ce qui caractérise cet ouvrage, c'est un dialogue. Le dialogue que l'auteur mène soit avec le lecteur, soit avec un adversaire imaginaire. Donc, quels sont les arguments? Parce que ce qui est intéressant, et je pense ce qui vous intéresse, mais qu'est-ce qui se trouve hein, à l'intérieur de cet opuscule? Alors voilà, c'est la thèse numéro 10, hein, c'est elle qui choquait à l'époque, hein, où l'auteur explique pourquoi hein, la femme, c'est un argument parmi d'autres. Alors qu'est-ce que nous lisons? Un forgeron ne peut faire une épée s'il n'a un marteau pour lui servir d'aide. Un écrivain ne peut écrire s'il n'a une plume pour aider sa main. Enfin, un tailleur ne peut coudre s'il n'a pareillement pour aide une aiguille. De même, l'homme ne peut engendrer s'il n'a une femme pour le seconder. Or, comme le marteau n'est point le forgeron, comme l'aiguille n'est point le tailleur, ni la plume l'écrivain, ainsi la femme n'est point l'homme. Si quelqu'un veut nier que la femme soit la cause instrumentale de la génération, qu'il nous en fasse connaître une autre, etc. Donc voilà, c'est un argument où Ève est présentée comme aide. Hein, et, mais aide, cela ne veut pas dire d'appartenir à l'espèce humaine. L'autre sujet qu'il développe, qui appartient à l'anthropologie théologique du sexe, ça veut dire, hein, c'est une question éternelle, est-ce que la femme a été créée à l'image de Dieu? Donc, nous avons une autre thèse hein, où nous pouvons lire que l'on parcourt tous les livres saints pour voir s'il est écrit quelque part « Faisons la femme à notre image » ou « Que la femme soit faite à l'image de Dieu ». Saint Paul dit expressément « L'homme est l'image et la gloire de Dieu et la femme est gloire de l'homme ». On voit que l'apôtre n'est donc point à la femme la prérogative d'être l'image de Dieu et qu'au contraire, il la lui refuse. Ainsi, gardons-nous bien de faire injure à Dieu et de donner la qualité d'homme à une créature qu'il n'a pas jugée digne d'être son image, comme c'est un article de foi chez les catholiques même. Alors, lorsqu'il parle de cet article de foi chez les catholiques, il pense au décret de Gratien, où il est écrit que la femme doit couvrir la tête car elle n'a pas été créée à l'image de Dieu. Et cet ouvrage à partir du XIIIe siècle, fait partie du droit canon. On a d'autres exemples qui sont tirés de la grammaire ou encore de l'étymologie. Donc il s'agit du mot latin homo, hein, qui se réfère à Adam, donc vient du mot humus qui signifie la terre. Alors la femme ne peut pas être de l'espèce humaine parce qu'elle n'a pas été créée de la terre. Puis on trouve un autre passage qui était aussi choquant à l'époque. C'est un passage qui concerne la cananéenne, hein, le passage qu'on se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15e, où l'auteur parle des femmes et il les appelle du terme suivant, chien. Donc je vais vous montrer ce fragment. Thèse numéro 22. Aussitôt que les disciples eurent dit « Seigneur, renvoyez cette femme », Jésus-Christ leur répondit « Il ne convient pas d'ôter le pain aux enfants et de leur donner aux chiens. » Voyez l'attention singulière du Christ à rendre les hommes de toute sa conduite. « Entendez-vous, pauvre sexe, le nom que le Sauveur vous donne, comme il vous qualifie, non pas des créatures humaines, mais de chiens, non d'enfants, mais d'animaux domestiques. Comprenez-vous qu'il n'est pas convenable à nous qui sommes les enfants de prendre le pain, c'est-à-dire le Christ, ce pain de vie qui est descendu du ciel, et de vous le donner à vous qui n'êtes que des bêtes immondes. Parmi l'autre argument, nous avons la foi. Et l'auteur nous dit que le fait de croire en Dieu n'est aucune preuve, car les démons croient aussi, et cependant, ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Et l'autre exemple, le baptême, hein, les baptêmes des femmes, évidemment, cela aussi n'éprouve rien du tout, car les catholiques, par exemple, baptisent des églises, des cloches, est-ce que ces objets inanimés, hein, le fait qu'on a baptisé, ça veut dire qu'ils appartiennent à la nature humaine. Alors, encore un autre argument, parler et raisonner. Et je vais vous montrer l'exemple suivant. J'entends ici les femmes s'écrier, nous parlons comme vous, nous raisonnons comme vous et nous avons une âme raisonnable. Donc, nous sommes des créatures humaines aussi bien que vous. Voilà précisément tout ce que je leur conteste. Car il y a plusieurs oiseaux qui parlent. Et l'âne de Balaam a parlé sans qu'il fût pour cela une créature humaine. Mais d'ailleurs, parler sans raison, c'est proprement n'est point parler. Il est clair que les femmes parlent sans raison, puisque l'apôtre leur ordonne de se taire dans l'assemblée des fidèles. Et j'ajoute encore un autre argument, parce qu'on peut se poser la question, alors si les femmes n'appartiennent pas à l'espèce humaine, et Marie. Donc notre auteur nous dit que seule Marie appartient à l'espèce humaine, je cite, par une grâce spéciale et non par sa propre nature. Fin de la citation. Donc au moins il y a une femme qui appartient à l'espèce humaine. Donc vous voyez que l'auteur sait bien manipuler la Bible, hein, donc il modifie le contexte, il déguise les arguments qui se trouvent ailleurs dans les Écritures, ou encore il donne une mauvaise impression d'un passage biblique. Parfois, il cite un homme, un auteur qui est assez connu, Martin Luther, apparaît Sébastien Castaglio, Cicéron une seule fois, mais en général, comme je vous ai déjà dit, il préfère préfère se référer au grand philosophe théologien, comme il dit, de notre époque. Hein, voilà, de notre époque. Parmi ce qui est intéressant, parmi les sources dont il se réfère, il se réfère, le citant parfois ou paraphrasant pour ne pas dire plagiant, alors il se trouve ce livre qui est le moins susceptible d'aider sa cause. Donc il s'agit de l'œuvre, une des œuvres les plus connues à l'époque de la Renaissance, donc l'œuvre latine d'Henri Corneille Agrippa, les traités sur la noblesse et la très excellence du texte féminin, qui pour la première fois il est publié en latin en 1529. Il est tout de suite traduit en plusieurs langues en français. Il y a plusieurs traductions encore à l'époque de la Renaissance en français, où l'auteur, si vous ne connaissiez pas le texte, prouve tout simplement la supériorité du sexe féminin en disant que les femmes sont meilleures, et il donne plusieurs arguments. Donc je reviens à notre texte latin, parce que la question qui se pose est la paternité du texte latin. L'on attribue souvent à Valens Acidarius, qui n'a vécu que 28 ans. Malgré son jeune âge, il est devenu célèbre à l'époque de la Renaissance en tant que poète, traducteur de classique latin, auteur de textes occasionnels ainsi que de revues scientifiques critiques. Et il a latinisé son nom, vous savez, Acidalius, donc ça vient d'Acidali. Alors, d'après la mythologie, c'est le surnom de Vénus, Valens Acidalius. Probablement, la source de la publication de ce texte latin est une malentendue. En 1594, éditeur et libraire de Francfort avait publié les commentaires de Valens Acidalius, le commentaire sur un historien romain, et immédiatement après, cet éditeur a commencé à se plaindre que ce livre ne se vendait pas. Alors, pour compenser cette, disons, prétendue perte, Acidalius, lui, a envoyé une copie de cette Disputatio Nova, qui circulait parmi les amis. Apparemment, il l'a fait pour garantir un riche profit à son éditeur. Et quand le secret est sorti, qu'il avait été impliqué dans sa publication, les problèmes commencent et il doit se présenter au tribunal pour expliquer pourquoi, comment il a écrit cette disputation. Apparemment, Acidalius s'est défendu en expliquant que ces textes étaient connus en Pologne depuis longtemps. Il n'a fait que rééditer cet opuscule. Comme le remarque la chercheuse allemande, car ça, je n'ai pas dit, le texte a été publié dans plusieurs villes allemandes, et alors d'une façon naturelle les chercheurs allemands s'intéressent à cette publication. Alors Magdalena Drex remarque que l'ouvrage n'est pas composé selon les règles de la rhétorique qui devrait guider un si excellent philologue. Parce que Valens Acidalius s'était remarqué et donc c'était un excellent philologue. Et elle explique que l'argumentation est claire mais simple. Les arguments sont plusieurs fois répétés. Et ensuite, les traducteurs allemands de cet opuscule latin prêtent également attention au style et à la rhétorique du texte de l'ère épistolaire d'Acidalius, qui ne correspondent pas au style simple de cet opuscule latin, car il y a des phrases qui sont maladroites, qui sont mal structurées, on a des citations qui sont inexactes, dont le philologue de ce rang devrait connaître parfaitement. Et il déclare que la paternité d'Acidalius doit être mise en doute. Tout de suite après la publication de cet opuscule, il est mort, le pauvre. Donc il n'a pas pu participer à la querelle qui surgit tout de suite après. Tout de suite après, la réputation, vous voyez la réputation hein, d'un théologien luthérien, Simon Gellick, le même année, donc réfutation qui est publiée la même année, c'est une défense du sexe féminin. On peut se poser la question, dans le dictionnaire historique et critique de Pierre Bell, on trouve un peu ironise en disant que Gellick n'a pas compris hein, le message de cet opuscule. Alors, il a compris ou non hein? Probablement, il n'était pas si bête. Hein? Il a bien compris de quoi s'agit-il, mais il a vu un grand danger dans le livre analysé qu'il a nommé, je cite, « un acte notoire et blasphématoire », fin de la citation. Pourquoi un grand danger? Car, hein, je vous rappelle, hein, les protestants, c'est un luthérien, alors les femmes protestantes luthériennes étaient mécènes du clergé luthérien. Leur dire qu'elles ne sont que des bêtes, que le salut n'est pas pour elles, ou encore qu'elles n'ont pas d'âme, était fort dangereux. C'est pourquoi Gellick s'est donné beaucoup de mal pour répudier chaque thèse de ça, de cette disputation. Donc il cite ou paraphrase des passages tirés de cet opuscule latin et il répond à son tour et donc il cite un autre fragment biblique. Il le fait avec beaucoup d'émotion. Sa réputation devient un vrai, plaidoyer en faveur des femmes. Et pendant presque 200 ans, les deux textes, Disputatio Nova et la réputation de Gellick, sont réimprimés ensemble. 17e siècle et encore une partie de 18e siècle. Au XVIIe siècle, cette Disputatio Nova ternit la réputation de Valens Acidalius. En revanche, la Defensio a propagé la renommée de Simon Gellick au XVIIe siècle. Bon, aujourd'hui, il est un peu oublié. Alors, séparément ou ensemble, les deux textes sont réédité, mais ces deux textes sont aussi imités ou plagiés. Et vous avez une autre date, juste le début du XVIIe siècle. C'est un livre anonyme, écrit en allemand. C'est un dialogue entre deux hommes. Il y a un frère bénédictin qui est un ami des femmes, et puis un père, donc c'est un jésuite émérite qui, comment je dis, frère bénédictin est un ennemi des femmes et ce jésuite est un ami des femmes. Alors, ces deux héros se réfèrent principalement à la Disputatio Nova et à la réponse de Gaedic. Donc, les deux locuteurs avancent parfois aussi leurs propres arguments indépendamment de ces deux sources principales. Et d'après ma connaissance, 1647, c'est la traduction italienne, hein, donc la première traduction de cet opuscule latin. La polémique qu'avait déclenché Disputatio Nova montre qu'en réalité, son succès ou sa nouveauté, si on peut dire comme ça, ne résidait pas dans la parodie de la méthode socinienne, hein, pour ridiculiser ce mouvement, mais dans son ton misogyne. Finalement, Disputatio Nova devient un best-seller d'un parti anti-féminin et non pas anti-socinien. Donc je passe à notre traduction. 1678, le manuscrit qui se trouve dans le fond de la bibliothèque d'Oxford, la traduction préparée par Paul Lorrain pour son disons précepteur. Si on peut dire comme ça, c'est lui qui le payait tout simplement parce qu'il travaillait comme traducteur, etc. Après, nous avons deux traductions qui sont publiées au XVIIIe siècle. 1744, Anne-Gabriel Meunier de Kerlon, dissertation paradoxale où on essaie de prouver, etc. Et puis la dernière traduction, 1766, Charles Clapier, paradoxe sur les femmes où l'on tâche de prouver qu'elles ne sont pas de l'espèce humaine. C'est cette traduction qu'on peut trouver sur le site de Gallica. Le texte qui a été numérisé par la BNF. Finalement, le texte a été publié en 2016 et on peut prendre le livre, hein, on n'est pas obligé de lire dans l'ordinateur, hein, ce que je n'aime pas faire. Et je vais vous montrer une photo de cette première traduction. Vous voyez Mulieres non homines, ou la femme déshumanisée, hein, ça se commence de cette façon là et ensuite thèse que les femmes ne sont pas du genre humain. Donc, la suite. Quelle est la composition de ces trois traductions? La première s'ouvre avec la dédicace, hein, à Monsieur Pepys, puis nous avons la traduction, et ensuite un très court épilogue du traducteur aux dames. Dissertation paradoxale, donc 1744, préface, traduction, où le traducteur garde 51 thèses et il ajoute 4 notes. La dernière traduction, paradoxe sur les femmes, les étrennes pour les femmes, puis avant-propos, puis la traduction et il ajoute 41 notes. Comme le constate Constant Léber dans son catalogue des livres imprimés, un catalogue qui a été publié au début du 19e siècle, selon lui, la dissertation paradoxale de 1744 est une, comme il dit, traduction exacte, tandis que le paradoxe sur les femmes, donc il s'agit de cette traduction de 1766, est une traduction libre. En ce qui concerne la première traduction, j'étais en train de regarder un peu à la vitesse ce manuscrit et je peux constater pour le moment que c'est une traduction plutôt exacte. Il y a quelques différences, mais lorsqu'on traduit, lorsqu'on prend deux traducteurs, il y a toujours une différence. Voilà, la dissertation paradoxale, comme vous voyez, comporte... Bon, je ne veux pas vous dire beaucoup sur cette première traduction parce qu'il faut que je l'analyse hein, petit à petit. Je viens de recevoir ce manuscrit. Ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il n'a pas gardé ce découpage en thèse. L'auteur n'a pas gardé ce découpage en thèse. Hein, donc le texte est continu. Alors, dissertation paradoxale, donc la première traduction du XVIIIe siècle, comme vous voyez, comme je vous ai dit déjà, l'auteur a gardé la forme de cette discontinuité, ce qui facilite la comparaison hein, de cette traduction entre les textes latins et la traduction française. En revanche, le paradoxe sur les femmes est plus étendu, car il est composé hein, de ces étreintes, comme disons cadeau pour les femmes, puis avant-propos, la traduction et les notes, souvent très longues et plus ou moins digressives. Ces préfaces, ces notes prolongent et dépassent le texte. En plus, le traducteur a choisi la forme du continu sans faire attention à la forme et au style de texte original. Donc, si on compare les deux traductions, dans la première, dans la préface, l'auteur nous donne tout simplement les informations qui sont nécessaires pour bien comprendre l'œuvre. Dans le cas de la traduction de 1766, le traducteur accompagne son travail empruntif de deux préfaces qui constituent une sorte d'apologie féminine. Et Charles Clapier constate qu'il a ajouté quelques notes, et je cite, « retranché quelques traits qui n'est porté que sur les erreurs des Sociniens ou des Anabaptistes. » En réalité, les changements sont plus graves car il a pris par rapport au texte à partir duquel il travaillait un certain nombre, disons, de libertés visant à gommer le caractère doctrinal de l'être latine. Donc il a ainsi enlevé un certain nombre d'omissions concernant des passages consacrés aux Sociniens, à la divinité de Jésus ou au baptême des enfants, donc tout ce qui peut sembler disons peu intéressant aux yeux des femmes. Les modifications qu'il en apporte à sa traduction sont importantes. Il a éliminé 5 thèses, presque chaque thèse a quelques modifications, soit ça concerne une expression, soit toute une phrase, une phrase entière peut être gommée. En plus, il a ajouté directement dans le contenu du texte ses propres idées, disons pour mieux expliquer le sujet. Alors, la dissertation paradoxale est une traduction fidèle, où l'auteur nous présente le message, hein, nous transmet le message de l'auteur de cet opuscule latin. En revanche, dans le cas du paradoxe sur les femmes, il s'agit d'un traducteur qui est en même temps ce qui était tout à fait normal à l'époque de l'Ancien Régime et surtout au XVIIIe siècle, il se comporte comme co-auteur. Hein, donc il traduit et refait aussi ses textes, d'où tant de liberté d'interprétation car son but essentiel, c'est le plaisir du public féminin. On voit bien, grâce à ces deux avant-propos, que le texte est destiné aux femmes, hein, pour leur faire un petit cadeau, hein, pour leur faire plaisir. Donc, nous. Alors, finalement, il mutile, hein, ce message de l'auteur latin, parce que il introduit, par exemple, une notion tout à fait nouvelle de race de Dieu, et ces nouveaux éléments grossissent la pensée sur les femmes. Donc, si on analyse le procédé choisi par le traducteur, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui le paradoxe sur les femmes est rangé parmi les textes misogynes. Hein, et lorsqu'on parle, hein, si vous avez l'occasion d'étudier la querelle des femmes et étudier les textes, ce texte, le paradoxe sur les femmes, est souvent présenté comme un texte misogyne, hein, un modèle, aussi un modèle pour les misogynes futurs, hein, qui viendront après lui. Hein. Donc, Clapier a déformé le texte original à tel point, hein, qu'il a perdu son vrai but et fonctionne comme plusieurs ouvrages anti-féministes. Je crois que vous connaissez l'autrice Eliane Bienneau, qui s'intéresse aux femmes à l'époque de l'Ancien Régime, qui a écrit beaucoup de textes sur la querelle des femmes. Alors, elle a préparé un site où elle présente les rééditions latines de Disputatio Nova, ainsi que ses traductions. Et donc, c'est une liste des ouvrages qui s'inscrivent dans la querelle des femmes. Hein. Donc, nous savons bien que ce n'était pas le but, hein, de l'auteur. Encore un petit mot, mais là je ne me rappelle plus le nom, donc il faut que je vérifie. Voilà, récemment c'était, là j'ai trouvé le texte, récemment effectivement, mais le texte vient de, si j'ai bien noté, de 2016. Hein, le texte est accessible sur le site, je crois que tout le monde le connaît, Academia Edu. Hein, on trouve beaucoup de textes qui sont intéressants. Et voilà, là, il y a un texte qui est consacré à cette traduction, Le paradoxe sur les femmes, l'auteur Roxane Darlot-RL. Il s'agit d'une mise à jour de sa mini-mémoire de master de 2016 et c'est la première autrice française de ma connaissance qui présente en langue française, hein, une analyse donc, de cet opuscule latin. Elle présente le contexte historico-littéraire et aussi elle présente le traducteur, donc Charles Clapier. Cependant, son texte a, disons, un sérieux défaut d'argumentation parce que l'autrice base uniquement sur, en présentant le texte latin, elle base uniquement sur la traduction de 1766, qui, selon elle, est une traduction fidèle de l'opuscule latin. Alors, en analysant, elle fait l'analyse de Disputatio Nova en même temps de ce paradoxe sur les femmes. Elle se réfère aussi aux entraînes pour les femmes. Hein, donc, nous avons cette première, disons, préface, donc, qui est écrite par le traducteur. Alors, elle attribue à tort cette introduction à Valens, à Sidalus. Hein, donc, évidemment, tout cela rend son étude parfois fautive, hein, parce que ce ne sont pas quand même les deux textes, donc les mêmes textes. Parmi les chercheurs français, en général, les chercheurs français, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce texte. Pour les énumérer, j'ai fait une petite recherche. Évidemment, Marc Angénon, hein, qui parle de cet opuscule latin. Pierre Darmon, femme détestée, femme célébrée, misogynie et féminisme du 16e au 19e siècle. Les éditions de Paris, Max Chalet, 2019. Mais encore une fois, une petite faute, l'auteur attribue le paradoxe sur les femmes à Meunier de Kerlandon, hein, notre traducteur. Sinon, Eliane Guénaud, évidemment, et vous trouverez aussi l'opuscule latin est mentionné, juste mentionné dans l'histoire des femmes en Occident. Tome 3e, 16e et 18e siècle, sous la direction de Nathalie Zénon, David Sarlette Farge, donc c'est là en 2004. Mais ce ne sont pas des. On n'analyse pas le texte latin et surtout on n'analyse pas la traduction française. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ici? Bon, 18e siècle, hein, je vous ai mentionné Pierre Bell, hein, qui dans son dictionnaire historique et critique mentionne l'existence de cette dissertation. Il le fait à propos de ce Guédic, hein, pour le ridiculiser un peu et pour parler de cette querelle autour de cet opuscule latin. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après, et là c'est une nouveauté, aussi c'est une découverte pour moi, peut-être vous ne la connaissez pas, j'ai parlé il y a deux jours de Louise Dupin, donc voilà Louise Dupin qui est une découverte. Frédéric Marty vient de publier ça, il l'a fait l'année dernière, c'était novembre, je crois, hein, donc il a travaillé sur ce manuscrit de Louise Dupin. Donc il y a la défense des femmes chez Champion, et puis séparément il a publié Discours préliminaire Taillot. Alors dans ce petit discours préliminaire qui peut être regardé comme une sorte d'introduction ou de résumé, Louise Dupin parle de l'opuscule latin. Donc là, ce que j'ai noté, elle consacre un chapitre qui est consacré aux théologiens, et elle écrit comme ça. Il a paru en 1595 un petit traité qui roule sur cette proposition que les femmes ne sont point des créatures de l'ordre des hommes. On a dit qu'il fut fait pour tourner en ridicule les Sociniens et faire voir qu'en abusant de l'écriture et en lui donnant des sens détournés, on peut prouver que les femmes ne sont pas des créatures humaines. Là j'ai écrit les années 1740, comme le texte n'a pas été publié à l'époque, on sait qu'elle travaillait pendant plusieurs années sur sa thèse où elle prouve l'égalité des femmes et des hommes. Donc elle n'a pas pu connaître de traduction française de ces disputations. En revanche, ce qu'il existe, c'est une réfutation de Madame Doyen, apparemment veuve de La Fontaine, mais je ne sais pas de quelle La Fontaine, est difficile à vérifier pour le moment. C'est une réfutation hein, comme vous voyez, le triomphe, il y a aussi un autre titre, le triomphe des femmes ou le paradoxe de 1766, confondu, dissertation qui prouve, etc., etc. Donc il s'agit, donc, elle se réfère à la traduction et non pas comme Louise Dupin à l'opuscule, latin. Et là, je vous donne quelques citations. Donc, elle veut prouver la thèse contraire et le paradoxe 1766, sa réfutation. Donc, elle prouve la thèse contraire. C'est une autre. Donc, l'année suivante, 1767. Et elle, on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris le message. Mais en fait, ce qui était aussi normal, car souvent au 18e siècle, beaucoup de textes, lorsqu'on les publiait, on avait cette annotation traduction. Alors, pour vendre mieux le livre. Peut-être elle ne savait pas qu'il s'agissait d'une vraie traduction d'un texte latin. C'est pourquoi elle écrit par exemple que garder le silence pourrait fournir des armes à l'auteur pour accréditer son système. Hein, comme si l'auteur c'était ce traducteur de l'opuscule. De l'opuscule latin. Ce que j'aimerais bien vous montrer encore, à quoi ça ressemble, ce triomphe des femmes ou le paradoxe. Alors, l'autre chose qui est intéressante, j'aimerais bien voir, comparer, pas tout, mais juste d'abord les débuts. Le début de ce qui ouvre ce texte latin. Donc, nous avons la thèse première. Je commence par la traduction du XVIIe siècle, etc. Puisqu'en Sarmatie, comme dans un champ de tous les sens, il est permis de croire et d'enseigner que Jésus-Christ le Fils de Dieu, Sauveur et Rédempteur de nos âmes, n'est pas Dieu conjointement avec l'Esprit, etc. Puis vous voyez, deuxième traduction, presque la même, mais il y a une petite différence, c'est la Pologne et non pas la Sarmatie. Et puis troisième traduction, puisqu'il est permis dans Sarmatie de croire et d'enseigner que Jésus-Christ, etc. Et cette fois-ci, le traducteur ajoute une note pour expliquer « La Sarmatie a été regardée de tout temps comme un pays des barbares. » Vous pouvez lire la suite. En tout cas, le deuxième traducteur a choisi le mot « Pologne » parce qu'il savait bien que telle était à l'époque l'expression courante, donc à l'époque surtout de la Renaissance, encore au XVIIe siècle, pour désigner ce vaste royaume à l'est de l'Europe. Comme je suis polonaise, donc je peux vous dire, hein, c'était un pays, une sorte de l'Union européenne primitive, parce que c'était, on disait à l'époque, la République nobiliaire des deux nations. Alors, l'Union de deux nations, la Pologne et Lituanie. Hein, c'était, et puis, c'était vraiment un rare royaume où régnait la tolérance religieuse. Dans ce pays, disons, polono-lituanien, en 1570, des protestants, alors les protestants viennent de l'Ouest, hein, pour s'installer en Hollande, mais aussi ils s'installent en Pologne, il y a des calvinistes, des frères tchèques, donc il y a là, non seulement des frères polonais, mais aussi d'autres, en tout cas il y a beaucoup hein, des courants. Alors les protestants en général ont signé, c'est comme, excusez-moi, un appel consensus de Sandomierz. Hein, Sandomierz est une ville en Pologne. Alors, ces mouvements s'engagent à préserver la paix interconfessionnelle. Mais les frères polonais ont été exclus de ce règlement. Ces consensus n'avaient, disons, aucune force de droit, hein, parce qu'il n'a pas été promulgué par la Diet. En Pologne, cette république nobiliaire à l'époque, c'est une monarchie élective où il faut élire le roi, où on a le parlement, dont la Diet, et les diétines, hein, donc on délibère. Donc la loi doit être promulguée non pas par le roi, mais par la Diet. Alors ces consensus, c'est juste un accord entre ces mouvements. Alors plus tard, en 1573, la Confédération de Varsovie signe un document. Qui répète d'une certaine manière ces consensus de Sandomierz. Et ce document est signé lors de la diète de la convocation parce que notre roi, Henri III de Valois, hein, vous le connaissez parce que c'est votre roi, il a été élu roi de Pologne, mais après la mort de son frère, il a quitté la Pologne. Donc les Polonais restent sans loi, sans roi. Donc il faut élire un autre. Et lors de cette diète de convocation d'un autre roi, Stéphane Batory, on signe le document qui aujourd'hui se trouve, il se trouve dans le cadre du programme de UNESCO. Donc il s'agit de la Confédération de Varsovie qui se trouve dans le registre mémoire du monde. Alors le fait important, c'est un acte qui n'a pas été émis par le roi, mais élaboré par la noblesse et concernait toutes les confessions, pas une seule, comme dans le cas de d'autres édits de tolérance, édits de Nantes par exemple, hein, mais la conférence de Varsovie concerne toutes les confessions. La Confédération de Varsovie garantissait deux choses, égalité et liberté à toutes les confessions, et deuxièmement, la non-ingérence de l'État dans la conscience de ses sujets. C'est pourquoi la République nobiliaire était appelée souvent, comme à l'époque, l'asile des hérétiques, ou encore un État sans bûcher. C'est une liberté de conscience. Je vous parle beaucoup de l'histoire, hein, mais cela nous permet de comprendre le début de ce traité et de comprendre de quoi s'agit-il vraiment. Parce que ce début se réfère à un moment concret de l'histoire. Donc un moment concret de l'histoire, c'est donc après la Confédération de Varsovie et il se réfère aussi à un endroit concret où régnait la tolérance religieuse. Donc, dans le texte latin, nous avons Sarmatie, effectivement, et le traducteur a le droit hein, de garder Sarmatie. Et en général, les gens éduqués à l'époque comprenaient bien qu'il s'agissait d'un royaume à l'est de l'Europe. Autrement dit, l'auteur latin définit cette Sarmatie comme un endroit où l'on peut croire à ce qu'on veut. Alors, Alors, nous avons cette traduction de 1766, le fragment, oh, je laisse la première traduction. Alors, ce fragment est plus abstrait, n'est-ce pas? Parce que le traducteur garde cette notion, cette expression de Sarmatie, sans expliquer correctement de quoi s'agit-il. Hein, donc, il omet les faits historiques et place le sujet, à vrai dire, hors du temps. Car il, vous voyez son explication, hein, la note. Donc, c'est un texte hein, qui devient le temps est abstrait. Hein, ça peut. En Sarmatie, ça peut être n'importe où, n'importe quand, tandis qu'il s'agit d'un endroit très concret. Alors, regardons la fin. Là, je vous donne la citation de 1744, la fin de cet opuscule, où l'auteur latin constate tout simplement qu'il a bien prouvé sa thèse concernant le fait que la femme n'appartient pas à l'espèce humaine, et il dit que son texte est destiné, je cite, à ceux qui entendent raillerie et qui ont de l'intelligence, fin de la citation, et après il ajoute cette constatation, c'est la dernière phrase. Quant aux femmes de l'esprit faible qui pourraient prendre mal cet écrit, je l'écris de ne point s'en offenser et de ne continuer de leur bonne grâce. Si elles me les refusent, il ne tient pas à moi que, confondues avec les bêtes, elles soient replongées dans le néant pendant tous les siècles. À mon égard, je remporte à mon gré assez d'honneur dans mon travail, puisqu'en qualité d'hérétique, je me flatte d'avoir un jour aussi bien que les autres en moi un grand nom, si je n'ai une bonne réputation. On peut dire qu'il demande pardon au beau sexe, mais il ne le fait pas avec une vraie courtoisie. Et dans la traduction de 1766, le traducteur transmet une autre information. Il se distancie hein, de ce message latin, il modifie la fin et il ajoute une note pour, si on peut dire comme ça, redoubler cette distance entre lui, traducteur, et l'auteur latin. Donc, il omet ce fragment qui concerne les femmes de l'esprit faible. Là, on ne trouve pas ces femmes de l'esprit faible, donc qui ne convient pas au public féminin de son époque, ainsi qu'il gomme ce dernier fragment de ce grand nom, une bonne réputation. Là aussi, ce fragment est gommé. Et donc, on n'a cette constatation qui condamne d'avance hein, tout ce qu'on trouve dans ce traité. Alors, nous pouvons, pour terminer tout petit à petit, à propos de cette traduction du XVIIIe siècle, nous avons... qu'est-ce que nous pouvons dire? Un petit mot sur les traducteurs. Je commence par Charles Clapier, qui est l'auteur, si vous voulez voir bien les noms, on revient au début. Hein? Voilà, Charles Clapier, je commence par lui, parce que... c'est, l'histoire a retenu mieux, donc son nom a été retenu mieux que celui du premier traducteur. Et on peut dire que dans le cas de Clapier, le souhait de l'auteur latin d'être connu et rangé parmi les plus grands, d'une certaine manière, s'est réalisé. Hein, parce que celui hein, qui est donc je vous ai donné l'exemple hein, de ce mini mémoire où on se réfère à son texte et qui est une référence majeure hein, du texte latin. En plus, c'est sa traduction qui est sur le site de Gallica et qui a été finalement publiée par Hachette BNF. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Rien du tout, à part qu'il a traduit l'opuscule latin et qu'il a été médecin. Voilà, ce sont les informations qu'on peut trouver qui le concernent. En revanche, Anne-Gabrielle Menuet de Kerlon, c'était quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est pas connu, hein, mais à l'époque, c'était quelqu'un, disons, assez célèbre. Dans la notice de la bibliographie universelle et moderne du début du 19e siècle, j'ai trouvé beaucoup d'informations qui concernent sa vie professionnelle, sa vie privée. Alors, il était avocat au début, hein, souvent ils étaient avocats et puis donc il délaisse cette profession pour suivre son penchant et parce qu'il voulait devenir homme des lettres. Effectivement, il publiait ce texte dans le Mercure. Il était aussi rédacteur de la Gazette de France, de petites affiches de Provence. Ses articles qu'il écrivait à l'époque étaient lus et connus, avaient beaucoup de succès. Il a travaillé aussi comme éditeur. Donc il a retouché d'autres ouvrages à publier. Il s'occupait aussi des manuscrits de la Bibliothèque royale. Il a traduit plusieurs textes. Ce n'est pas le seul texte qu'il avait traduit. Donc vous voyez, il travaillait toujours avec des livres. Hein, et on peut dire que c'est pourquoi peut-être il a choisi cette stratégie de publier. De faire cette traduction fidèle, tandis que l'autre traducteur a choisi une autre stratégie hein, pour mieux vendre son texte, parce que c'est un texte qui devrait, hein, devrait plaire aux femmes. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je pensais dire. Si vous avez des questions, je vous écoute.
Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ?
Je me demandais quel était le contexte pour la réédition, pour les traductions.